Bonjour Sandra. C'est un plaisir de pouvoir être avec vous ce matin et d'avoir aussi les pré-ados aussi présents au culte ce matin. On a décidé cette année pour les pré-ados de leur donner l'opportunité de participer au culte une fois toutes les 5 semaines. Lors des 4 autres dimanches, ils auront l'occasion d'avoir un enseignement personnalisé pour eux, mais une fois toutes les 5 semaines, ils peuvent être parmi nous. C'est un peu déjà ce qui se faisait pour les ados l'année passée, où régulièrement aussi, ils ont un enseignement pour eux, mais ils peuvent aussi participer au culte. Et j'aimerais faire comme Jean-Lionel, poser aussi une question, mais je vais rajouter une règle, on va dire que ceux qui ont plus de 18 ans sont invités à ne pas répondre. Vous reconnaissez. Alors ma question est simple, est-ce que Moïse a posé les pieds dans le pays promis? On a vu ça? C'est ça, non mais... En plus? Il me semble en plus que Savino, c'est pas la première fois, donc tu restes vraiment jeune dans ton esprit, c'est bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les moins de 18, est-ce que Moïse a posé les pieds dans le pays promis? On a vu ça avec les pré-ados jusqu'au mois de juin. Oreb, qu'est-ce que t'en penses? Oui ou non? Non? Cécile? Non? Nathan? Rémi? Ok. Timothée, non? Ok. Alors, vous avez raison parce que, en effet, Moïse est mort avant de mener le peuple d'Israël dans le pays promis. Et en même temps, vous n'avez pas tout à fait raison, parce que il y a un texte. Tu mets la suivante. Il y a un texte dans le... Ah, c'est le... Ah, tu vas nous arranger ça. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui nous parle justement de Moïse posant les pieds dans le pays promis. Et c'est dans Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 13. Alors évidemment, c'est après la mort de Moïse, il est déjà en quelque sorte au ciel, mais il revient poser le pied en Israël, puisqu'il va avoir une petite conversation avec Jésus-Christ. On va lire ensemble Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 13, et ensuite je vous dirai ce que j'aimerais tirer de ce passage avec vous. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur !» Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question « Pourquoi donc les scribes, disent-ils, qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ce texte parle d'un événement extraordinaire. Mais vous allez voir que ce n'est pas tant l'événement lui-même qui est extraordinaire que ce que nous apprenons sur Jésus-Christ grâce à cet événement extraordinaire. Et je vous propose de voir dans un premier temps en quoi il s'agit d'une rencontre privée pour VIP, Very Important People, des gens très importants, des stars, hein, en théorie. Au verset 1, on voit que 6 jours après, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et franchement, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus a pris ses 3 disciples? Ensuite, on verra qu'il y a un but de formation tout à fait particulier. Et on se posera la même question au sujet de Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Alors tout d'abord, pourquoi ces 3 disciples? Premier disciple, Pierre. Pourquoi Jésus a-t-il choisi Pierre? Au chapitre 16, Pierre vient de confesser à haute voix qu'il croyait que Jésus est le Christ. Et cette confession est une première dans l'évangile de Matthieu. Pierre est le premier à affirmer qu'il croit que Jésus est le Christ. En plus, Jésus a un objectif, c'est de toucher Pierre en particulier. Et on voit que ce que Pierre va voir lors de cet événement sur cette montagne va rester dans l'esprit de Pierre et va le marquer. Regardez ce qu'il dit dans son épître, dans 2 Pierre chapitre 1, versets 16 et 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre a été profondément marqué par cet événement et cela va être le fondement de son autorité et de la profondeur de ce qu'il va apporter par la suite. Jacques, pourquoi Jacques? Alors Jacques, il se trouve que c'est le frère de Jean qui est aussi présent, mais il se trouve aussi que Jacques a une particularité que l'on apprend dans la suite, dans Actes chapitre 12, verset 2. Eh bien, c'est qu'il a été mis à mort par le roi Hérode. C'est le premier apôtre à être mort en martyr. On peut supposer que Jésus a voulu particulièrement encourager Jacques par cette vision spécifique en vue de ce qu'il allait vivre. Et Jean, son frère, pourquoi Jean? Eh bien, Jean, c'est aussi, comme Pierre, quelqu'un qui a été profondément marqué par cet événement et qui va le transmettre ensuite dans les écrits qu'il nous a laissés. Regardez dans Jean, chapitre 1, verset 14. Il dit, voilà, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a été marqué par cette vision qu'il a eue du visage rayonnant de Christ. Et d'autant plus que Jean était très jeune lorsqu'il a eu cette vision, mais à la fin de sa vie, il va de nouveau avoir cette même vision. Et c'est ce qu'il nous transmet dans Apocalypse, chapitre 1, versets 12 à 20, lorsqu'il dit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. » De nouveau, il a une vision particulière de Jésus-Christ. Et comme vous le voyez, cette vision ressemble beaucoup à celle qu'il a eue sur la montagne, lorsqu'il était avec Jésus sur la terre. Sauf que cette vision ici, c'est celle de Jésus-Christ en gloire, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui règne avec Dieu. Et ceci nous permet de comprendre que la vision que ces 3 disciples ont eue de Jésus-Christ avec son visage rayonnant, est une vision, est une perspective sur ce qui va se passer après la croix. Les 3 disciples voient Jésus-Christ glorifié tel qu'il le sera après sa mort et sa résurrection. Alors pourquoi est-ce que Jésus veut leur, en particulier, veut leur donner l'occasion de voir son visage rayonnant? Bien, il veut leur donner une petite formation privée. Et regardez où est-ce que cette formation commence. Cette formation, elle commence dans le verset 1, lorsqu'il est dit qu'il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Dans Luc 9, verset 28, on a un petit indice supplémentaire qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus fait cela. L'objectif, c'est de prier. Et certainement qu'il veut prier seul, il veut peut-être prier avec eux, mais Jésus veut leur apprendre l'importance de la prière. Et qu'est-ce que c'est que la prière? C'est simplement parler à Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ forme ses disciples en leur montrant que lui-même prend du temps avec Dieu et passe du temps avec Dieu. D'ailleurs, ces trois disciples ont déjà été choisis par Jésus au cours d'un événement spécifique. Lorsque Jésus est convoqué par le chef de la synagogue qui s'appelle Jaïrus, et dont la fille est extrêmement malade et va même mourir, il prend avec lui trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et ces trois disciples vont assister à la résurrection de la fille de Jaïrus. Plus loin dans l'histoire de l'évangile, juste avant que Jésus-Christ soit arrêté, il va aller prier dans le jardin de Gethsémané et il va prendre avec lui trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et ainsi, on voit que trois événements dans les évangiles regroupent Jésus avec ses trois disciples en particulier. Et ces trois événements ont deux autres points communs. C'est que le contexte où ils ont lieu est toujours le contexte un contexte qui est en lien avec la mort. Lorsqu'il s'agit de la fille de Jaïrus, elle était morte et Christ la ressuscite. L'idée derrière cet exemple, c'est que Jésus-Christ est vainqueur sur la mort. À Gethsémané, lorsque Jésus prie dans le jardin en attendant d'être arrêté et d'être mis à mort, sa prière est la suivante: « Non pas ma volonté, mais la tienne, ô Dieu. » Jésus-Christ s'est livré à la mort. Donc la fille de Jaïrus, Jésus-Christ est vainqueur sur la mort. À Gethsémané, Jésus-Christ s'est livré à la mort. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage de la Transfiguration? Alors, regardez bien le contexte dans lequel cet événement de la Transfiguration a lieu. Si on regarde Matthieu 16, 21, juste avant, Jésus dit à ses disciples clairement qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il a clairement annoncé qu'il allait mourir. Et il fait d'ailleurs la même chose dans le passage qu'on est en train de lire, au chapitre 17, verset 9, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et d'ailleurs, à la fin du chapitre 16, verset 28, Jésus a bien dit que quelques-uns qui sont ici ne mourront point s'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus, en fait, explique aux disciples que son chemin vers la gloire passe par la mort, que son chemin vers la gloire passe par la souffrance. Jésus-Christ, qui leur apparaît ici glorifié, c'est Jésus-Christ qui va être glorifié à travers son choix volontaire de passer par la croix, de mourir à la croix. Et on trouve ainsi ce principe fondamental, c'est que le chemin vers le trône pour Christ passe par la mort. D'abord la souffrance, ensuite la gloire. D'abord la croix, ensuite la couronne. Et c'est ce que tu as dit dans ta prière, Muriel, tout à l'heure. Pour obtenir la joie, Jésus-Christ a dû accepter la croix. Jésus explique donc à Pierre que le chemin vers la gloire passe par la souffrance. Et ça, c'est un principe qui est important parce que nous aussi, nous sommes invités à régner avec Christ. Nous aussi, nous sommes invités à entrer dans son royaume. C'est ce qu'il dit ici. Mais cette réalité n'est possible que si nous aussi nous passons par la croix. Regardez ce que Jésus a dit aux disciples, juste quelques versets précédents, quelques jours précédents, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » ce mode de fonctionnement est contraire à notre mode de fonctionnement normal. Tous les efforts que nous faisons pour réussir notre vie, pour nous assurer du bonheur, pour nous assurer la sécurité, sont mus par une seule idée, c'est d'essayer de nous sauver nous-mêmes, d'essayer de tout faire par nos efforts pour que ça fonctionne. Et souvent, dans notre désir de trouver un sens à notre vie, de trouver Dieu, nous sommes aussi dans cette logique-là. En réalité, la philosophie que nous propose ici Jésus est complètement différente. Cette philosophie, c'est pas « sauve-toi par tes efforts », mais « sois sauvé, car Christ a fait tous les efforts pour te sauver ». Sois sauvé en livrant ta vie à Christ. Livrer sa vie à Christ, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, et c'est pourtant quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Et là, il faut que je revienne à ce verset 2 de notre passage, où on voit que Jésus-Christ a été transfiguré devant eux, son visage a resplendi comme le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot de transfiguration? Alors, ça vient d'un terme grec qui est le terme métamorphosis, qui a donné aussi un terme qu'on emploie dans notre langue française, là, une métamorphose. C'est quoi une métamorphose? Si vous prenez une chenille, par exemple, la chenille, elle va créer son cocon, et puis du cocon va sortir un papillon. Il y a une métamorphose. Sauf que cette transformation de la chenille en papillon ne s'est pas faite par une intervention extérieure, mais elle s'est faite par une transformation qui venait de l'intérieur. Tout le potentiel de la transformation de la chenille en papillon était déjà à l'intérieur de la chenille. Et lorsqu'on parle ici d'une transfiguration en utilisant le terme de métamorphose, on réalise que ce changement extérieur qui est visible sur Jésus provient de l'intérieur. Ainsi, de la même manière, pour donner une autre image, le visage de Jésus ici n'est pas simplement un reflet du soleil, comme la lune nous éclaire pendant la nuit parce qu'elle reflète le soleil. Le changement dans le visage de Jésus-Christ est une radiation qui vient de l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Jésus-Christ? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est présent dans toute sa plénitude et qui transparaît dans son visage. Au chapitre 16, Pierre a confessé que Jésus est le Christ. C'est la première confession aussi forte d'un être humain. Et c'est particulièrement intéressant de voir que cette confession a eu lieu avant cette transfiguration de Jésus-Christ. Si Pierre avait dit, après avoir vu le visage rayonnant de Christ, « Ouais, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu », on aurait pu dire, bah, « C'est facile, il a vu quelque chose d'extraordinaire, voilà, c'est bon. » Mais Pierre a d'abord dit qu'il croyait que Jésus était le Christ, il a déclaré sa foi, et ensuite il a vu ce visage rayonnant, comme si Dieu lui donnait l'assurance que cette foi qu'il avait eue en Christ était une foi réelle et qu'il avait fait le bon choix. Et honnêtement, c'est aussi ce que Dieu peut faire avec nous. Lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, lorsque tu dis à Christ que tu crois qu'il est le Fils de Dieu, eh bien lui aussi va te donner l'assurance qu'il l'est vraiment et il va te le prouver réellement. Et tu vas réaliser à quel point, qu'est-ce que cela signifie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu vas réaliser qu'est-ce que cela signifie que son visage est transfiguré, est transformé, est changé. Et plus que cela, toi-même tu vas être transformé. Parce que c'est réellement ce que Christ fait lorsqu'on l'accepte. Cette transformation dont il est bénéficiaire s'applique aussi à nous. Son esprit vient habiter en nous et nous transforme de l'intérieur. Un exemple, très simple. J'ai eu l'occasion d'aller à New York cet été, et j'ai été frappé par une chose dès ma première arrivée, c'est de voir que les habitants vivaient en communauté. L'endroit où nous logions était habité uniquement par des personnes américaines, africaines. un quartier plus loin, c'était uniquement des Chinois. Une fois, on est allé se promener au bord de la plage, près sur la plage de New York, et lorsqu'on est arrivé là, c'était plutôt une population, on va dire, hispanique. On a fait 500 mètres, autour de nous, il n'y avait que des Russes, et tout le monde parlait en russe. Les gens étaient blonds, aux yeux bleus. On a voulu acheter des chaussures, et ils ont fait, avec l'accent russe, ils parlaient en anglais avec l'accent russe pour nous vendre des chaussures. Et ce cloisonnement de la population en communauté m'a frappé, et d'autant plus qu'on est moins habitué ici à cette séparation entre les communautés. Et au début, je me suis senti mal à l'aise. J'ai eu l'impression que je ne savais pas trop où me... J'étais pas à l'aise, surtout dans les quartiers non blancs et non, on va dire, avec une culture non occidentale. Et au fil du temps, tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que ma manière de penser n'était pas juste et que j'ai commencé à me dire, mais comment est-ce que Dieu voit ces gens? Et j'ai réalisé qu'en fait, le Seigneur est dans une position extraordinaire où il nous voit tel que nous sommes, il voit notre cœur, et son amour pour nous est à 100% le même, quelle que soit notre origine, notre culture, la couleur de notre peau, etc. Et c'est ce regard différent et le fruit de cette transformation que Dieu fait en moi et que Dieu réalise en moi. Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie ? Au verset 3, on voit que Moïse et Élie apparaissent à Jésus et s'entretiennent avec lui. Alors là, il y a une question que je n'ai pas résolue, mais que je vous pose. Comment les disciples ont-ils reconnu que c'était Moïse et Élie ? Il semblerait qu'ils ne les aient pas vus auparavant. Ils avaient tous les deux à la barbe, ça me paraît évident. Bon, Élie avait peut-être un manteau un peu spécial. Là, ils avaient un badge. Oui, exactement. Ouais. Moïse, prophète de l'Éternel, Élie, prophète de l'Éternel, oui, tout à fait, oui, certainement. Ouais, Moïse et Élie, en tout cas, sont là, s'entretiennent avec Jésus. Alors Moïse, pourquoi Moïse? Moïse représente quoi? Ben, Moïse, pour aller vite, représente un aspect principal, il représente la loi. Moïse, c'est celui qui a donné la loi au peuple d'Israël. Élie, que représente Élie? Élie représente en particulier les prophètes. Et c'est d'ailleurs ce qui nous est précisé ici dans Malachie, chapitre 4, verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants, etc. » Moïse, la loi, Élie, les prophètes. Ces deux symboles ont un point commun. La loi, comme les prophètes, ont un seul objectif, c'est d'amener les gens vers le Sauveur, d'amener les gens vers le Messie. La loi, en montrant que personne ne peut satisfaire aux exigences de Dieu, le prophète, en montrant les prophètes, en parlant de la part de Dieu pour les ramener à lui et pour les inviter à connaître le Messie. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que Élie représente aussi un autre aspect, il représente aussi Jean-Baptiste. Jésus le dit dans Matthieu 11, 14, c'est lui l'Élie qui devait venir. Et Jean-Baptiste est aussi le symbole de la repentance. Parce que si les prophètes ont bien eu un message, c'était le message de la repentance. Quel est le chemin pour venir à Dieu? C'est d'abord de réaliser qu'on ne peut pas répondre et satisfaire sa loi, c'est pas possible. On aura toujours à un moment ou un autre un écart de conduite, mais c'est aussi de réaliser qu'on a besoin de se repentir, de reconnaître qu'on a besoin de son pardon, qu'on a besoin de lui demander pardon pour tout ce qu'on fait qui le blesse et qui lui déplaît. La réaction, alors, pour continuer, vous voyez que cette rencontre entre VIP est en réalité pas vraiment une rencontre entre VIP au pluriel, mais c'est une rencontre pour un VIP. Et cette personne très importante, c'est Jésus. Quelles sont les réactions des personnes présentes ici face à Jésus transfiguré et quelle est en particulier la réaction de Jésus lui-même. Tout d'abord, la réaction de Pierre. Alors, regardez ce que Pierre dit au verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et on pourrait ajouter, « Et ne t'inquiète pas, Seigneur, ça sera vite fait, ça prendra 9 secondes. » Dans Marc chapitre 9, verset 6, on apprend qu'en fait, Pierre, il dit ça parce qu'il n'avait rien d'autre à dire. Il était juste terrorisé, il fallait meubler le silence, il fallait bien qu'il dise quelque chose. En fait, vous savez Pierre, vous savez qui c'est Pierre, si on pouvait le replacer dans un sketch de Gad Elmaleh. Pierre, c'est un peu le blond. C'est celui qui, vous savez, c'est celui qui a réponse à tout. Il y a un problème, il y a la solution. Et s'il faut donner son opinion, il est là, il va donner son opinion. Et même si Jésus dit qu'il va mourir à la croix, Pierre il est là pour dire « Mais t'inquiète pas, ça ne se passera pas comme ça, reste avec moi, tu ne mourras pas à la croix. » Pierre, il est spontané, il est direct, il ne sait pas ce qu'il faut dire, mais il parle. Même si c'est terre à terre, même si Jésus est transfiguré devant lui, il a aucun, c'est pas un problème pour lui de dire qu'il va monter des tentes et qu'ils vont faire un couscous ensemble, quelque chose comme ça. Vous savez, il y a des personnes qui sont un peu comme ça, avec ce trait de caractère-là. J'en connais une d'ailleurs, c'est moi-même. Et peut-être tout le monde ne se reconnaît pas dans ce trait de personnalité, en tout cas moi je m'y reconnais. Et je reconnais que ça me rappelle que mon grand-père me disait toujours quand j'étais gamin, avant de parler, il faut que tu tournes 7 fois ta langue dans ta bouche. Et je vous avoue que j'ai fait ça un paquet de fois. Jusqu'à ce que je comprenne un jour qu'en fait, ça voulait dire que fallait réfléchir avant de parler. Et je pense que Pierre aussi peut-être aurait eu intérêt à faire cela. Mais j'ai l'impression que bien souvent, on peut s'identifier à Pierre. On est aussi un petit peu tous des agités du bocal. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais lorsque je vois les travaux qui se font ici, je suis trop content de ce qui se fait et de ce que ces travaux améliore la qualité de notre salle. Et puis en même temps, chaque fois que j'arrive, je pense à un autre truc qu'on pourrait faire en plus pour améliorer ces travaux. Chaque fois que je passe dans la rue et que je vois une maison à vendre, je me dis, il faudrait qu'on l'achète, parce que comme ça, on pourrait faire une maison pour étudiants. Et puis je vous parle pas d'autres personnes aussi qui sont à Teen Ranch et puis qui ont plein de projets aussi pour améliorer Teen Ranch. On est un peu comme ça, en fait. On est toujours dans des projets, toujours à s'agiter, à se demander, mais qu'est-ce que je peux faire, Jésus, pour améliorer l'environnement dans lequel je vis? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il y a une autre manière de réagir? Vous avez vu, il y a quelque chose d'assez spécial dans ce passage, et qui m'a frappé. C'est qu'en fait, comme Pierre parlait, une nuée apparaît, et puis une voix se fait entendre. Et là, on peut dire que c'est pas très poli d'avoir coupé la parole de Pierre. Mais en même temps, on peut se dire, on comprend pourquoi cette voix a coupé la parole de Pierre. Pierre se fait couper la parole à cause de sa remarque terre à terre. Mais je pense que Dieu, en faisant entendre sa voix, veut aussi faire remarquer que Pierre est en train de mettre sur le même plan d'égalité Moïse, Élie et Jésus. Tous les trois dans des tentes les uns à côté des autres. Mais pour Dieu, il n'y a qu'un seul VIP. Pour Dieu, il n'y a qu'une seule personne importante. Et c'est qui cette personne? C'est la personne en qui il a mis toute son affection. C'est la personne qui fait toute sa joie. Ou encore en qui il a trouvé tout son plaisir. Qu'est-ce que Dieu voit dans ce visage rayonnant? Il voit son fils bien-aimé. Il y fait son plaisir. Il y déverse son affection, il y trouve sa joie. Qu'est-ce que tu vois dans le visage de Christ? On a une expérience un peu spéciale à Teen Ranch en août. Un matin, on nous a dit, ce matin, vous allez prendre une demi-heure, vous vous isolez quelque part sur la propriété, vous prenez un verset dans la parole, et pendant une demi-heure, vous ne réfléchissez qu'à ce verset. L'objectif était le suivant. c'était d'apprendre à s'arrêter, à stopper l'agitation de la vie et de la journée, et à simplement focaliser nos pensées et notre réflexion sur la parole et sur ce que Dieu voulait nous dire. Et je vous avoue que c'était pour moi une expérience vraiment enrichissante et en même temps délicate. J'ai pris ma chaise, je me suis posé sur le terrain de foot et j'étais tranquille, personne pour me parler, mon téléphone coupé, rien ne pouvait m'arriver. Et à ce moment-là, je vous assure que c'est vrai, il y a eu comme des espèces de petits coups de marteau dans le sol, avec comme une espèce de bête qui voulait brouter l'herbe, et par en dessous, qui broutait les racines de l'herbe. Et toutes les 5 minutes, ça tapait. Et donc je regardais ce qui se passait, et là, bien sûr, ça s'arrêtait. Donc je relisais mon verset, et puis ça retapait, je regardais, et bref, j'ai fini par méditer sur la nature plutôt que sur la parole. Franchement, c'est un défi d'arriver à méditer, et il n'y a pas que les taupes, en effet, qui peuvent nous embêter, il y a plein d'autres taupes dans notre vie. Et je vous invite juste à une réflexion qui nous a été proposée par Pierre Barito, et que je trouve intéressante. Une de mes préoccupations principales est l'activisme de tant de croyants. Pour eux, la tyrannie de l'urgent n'est pas une vue de l'esprit, mais un fait réel dans leur vie. Cela les laisse avec le sentiment d'être épuisés, impatients, quelquefois avec du ressentiment, et le pire, vides. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et sur la terre. Qu'est-ce que je vois dans le visage de Jésus-Christ? Est-ce que j'y trouve mon plaisir? Est-ce que j'y trouve ma joie? J'ai besoin de m'arrêter et de prendre le temps de penser à cela. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me réjouit à cette occasion. Et dans cette perspective, c'est les études bibliques qu'on va commencer début octobre ensemble. Et ça va être l'occasion pour nous de pouvoir nous arrêter et voir Christ ensemble, et pouvoir nous arrêter et réaliser qui il est vraiment. Alors je vous donne pas le thème ce matin, j'ai pas le droit, ce sera dimanche prochain, mais vous verrez que ça sera vraiment un moment enthousiasmant ensemble. Pour terminer, les réactions de Jésus. Ici, Jésus a deux réactions. Sa première réaction, c'est que quand Pierre parle de manière spontanée, de manière ridicule, que dit Jésus? Rien. Jésus ne dit rien. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'avant il parlait avec Moïse et Élie, ils étaient tous les trois en train de parler d'un point commun entre eux, qui était le fait d'avoir des disciples. Moïse a eu Josué, Élie a eu Élisée, Jésus a eu 12. Et ensemble, ils s'expliquaient les difficultés, les problèmes qu'ils avaient d'avoir des disciples. Et notamment, ils parlaient de la nécessité d'avoir de la patience avec ses disciples. Et Jésus-Christ, ici, exprime une patience extraordinaire. Il ne dit rien à Pierre, mais il ne lui fait pas non plus de reproches. Qu'est-ce qu'il fait? Il va plus loin. Et combien de fois le Seigneur fait ça aussi avec moi? Plutôt que de me dire, arrête avec tous tes projets, ton agitation, etc., il m'ouvre les yeux et il me montre le bénéfice que c'est de pouvoir s'arrêter et de pouvoir simplement prendre plaisir dans sa présence. D'autre part, Jésus insiste aussi sur son humanité. Regardez comment Jésus s'appelle dans ce passage. Il s'appelle Fils de l'homme 2 fois. Jésus ne se présente pas comme le Seigneur, comme le roi, etc. Non, il s'appelle le Fils de l'homme. Cependant, tout ici indique sa divinité, son visage rayonnant, ses habits de lumière, son entretien avec Moïse et Élie, et encore la voix qui sort de la nuée. Mais Jésus s'appelle le Fils de l'homme. Et ce passage, en fait, est une formidable image de la mission de Christ. Ce passage est la rencontre du divin et de l'humain. Ce passage est la rencontre du ciel et de la terre. Jésus-Christ est bien le médiateur entre les hommes et Dieu, celui par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu est le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. En fait, la discussion principale entre Moïse et Élie, c'était peut-être pas les disciples, mais c'était plutôt une réflexion sur le parcours qu'il restait à faire à Christ jusqu'à la croix. La croix pour devenir par sa mort le chemin de la vie et le chemin vers le ciel pour tous ceux qui mettraient leur confiance en lui. Ainsi, ce passage, en fait, à travers cet exemple, cet événement de la transfiguration du visage de Jésus-Christ, ce passage est tout simplement l'annonce de l'Évangile, l'annonce de cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas ma gloire, ce n'est pas ta gloire qui te permet d'atteindre Dieu, mais c'est la gloire de Dieu qui me permet, qui te permet d'atteindre Dieu. De telle sorte que nous n'avons pas besoin d'atteindre le ciel pour que nos vies soient métamorphosées, mais nous avons simplement besoin de donner notre vie à Dieu, de le laisser nous transfigurer par l'intérieur. Lorsque nous cédons notre vie au Saint-Esprit, il nous transforme de gloire en gloire. Et alors que nous lisons la parole de Dieu, nous voyons le Fils de Dieu et sommes transfigurés par l'Esprit de Dieu. Je vous laisse avec cette question. Que vois-tu lorsque tu regardes Jésus-Christ ?